Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. À la une, le Conseil de sécurité débat du lien intrinsèque entre les conflits et la faim. Les 15 qui, jeudi soir, se sont vivement inquiétés de la dégradation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Nous marquerons la fin de la 62e session de la Commission de la condition de la femme, mais aussi la journée météorologique mondiale. Enfin, un dossier coup de projecteur sur les défis de la biodiversité. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est donc réuni ce vendredi pour discuter du lien entre les conflits et la faim. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a déclaré lors de cette réunion qu'il était possible d'éradiquer la faim de la condition humaine d'ici les prochaines années. Jérôme Bernard.
Mark Lowcock a rappelé devant les membres du Conseil de sécurité que les famines sont devenues moins fréquentes et moins mortelles ces dernières décennies, grâce à l'amélioration des techniques agricoles et une multiplication par 4 ces 50 dernières années de la production de grains. Selon le responsable onusien, cette tendance va probablement se poursuivre grâce à l'ingéniosité humaine et aux avancées de la science. Le secrétaire général adjoint a également mentionné la réduction globale de la pauvreté et la mise en place de filets de sécurité en cas de récolte insuffisante dans certains des pays les plus pauvres au cours des 20 dernières années. Cela veut dire que le risque de famine est désormais circonscrit à un nombre relativement petit de pays affectés par un conflit intense, prolongé et à grande échelle. C'est ce qui fait dire au directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, qu'il ne sera pas possible de mettre fin à la faim dans le monde d'ici à 2030 si les conflits armés se poursuivent.
Le même conseil qui, après le débat tenu sur la RDC le 19 mars, se dit vivement inquiet de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Dans une déclaration à la presse, les Pays-Bas, qui président le conseil ce mois-ci, jugent catastrophique la situation dans certaines régions du pays, notant qu'au moins 13 millions de personnes ont besoin d'aide. Un constat auquel souscrit totalement Claude Jibidar, il est responsable du programme alimentaire mondial de l'ONU dans le pays.
On a 4,5 millions de personnes déplacées internes en RDC. C'est le plus gros chiffre en Afrique. Il n'y a pas un pays qui a plus de personnes déplacées. La RDC a 650 000 de ses ressortissants qui sont réfugiés à l'extérieur de la RDC. Mais la RDC est aussi haute, à plus de 500 000 réfugiés centrafricains, sud-soudanais, burundais et autres qui sont aussi réfugiés à l'intérieur. Donc c'est un énorme phénomène de déplacement au-delà des frontières, mais surtout de déplacement interne à l'intérieur du pays. Ce pays ne devrait pas avoir besoin qu'on donne de la nourriture à ces gens. Tout pousse dans ce pays. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est parce que les populations sont systématiquement déplacées, elles fuient devant ces bandes armées, et il y a un climat, une atmosphère, une culture de violence qui s'est établie. Donc c'est ce cercle de la violence qu'il faut vraiment arrêter. Et on le sait, c'est ça qui fait le drame de la RDC aujourd'hui.
Dernier jour à New York de la session de la Commission de la condition de la femme, 15 jours de réunion sur le thème de l'autonomisation des femmes et des filles rurales. Khadija Simboro est l'une des nombreuses participantes. Elle préside l'association Femmes Leaders d'Afrique du Burkina Faso.
Les 15 jours ont été vraiment très intéressants parce que j'ai appris surtout à partir de l'expérience des autres pays. Et je retiens surtout un panel sur les femmes dans le domaine de l'ingénierie. Et ce panel était vraiment très intéressant pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de partage d'expériences. Si le thème de la CSW de cette année étant l'autonomisation des femmes en milieu rural, je pense que quand on fait le résumé des besoins de ces femmes-là, on a l'accès aux infrastructures qui est un point très très clé pour l'autonomisation des femmes. Par exemple, les jeunes filles qui doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, si elles arrivent à avoir des infrastructures, avoir de l'eau à côté, elles ont plus de temps par exemple pour étudier. De la même manière, quand on a accès à l'énergie, on arrive à augmenter en fait son gain pour les femmes qui font des activités rémunératrices et également pour les jeunes filles qui vont à l'école. Si elles ont de l'énergie chez elles, elles peuvent vraiment étudier et augmenter en fait leur rendement à l'école.
Enfin, ce 23 mars, on célèbre la journée météorologique mondiale. À cette occasion, on écoute le message de Peter Italas, il est secrétaire général de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale.
Cette année, la journée a pour thème « Temps et climat préparés ». C'est vraiment un thème d'actualité, car plusieurs records ont été battus en ce qui concerne l'atmosphère. Par exemple, la concentration de dioxyde de carbone est désormais constamment supérieure à 400 ppm, un chiffre qui n'avait jamais été égalé en 300 millions d'années. Et l'an dernier, en 2017, le record de l'année sans El Niño, la plus chaude, jamais constatée, a été atteinte. 2016 était encore plus chaude, mais subsistait l'influence d'un puissant El Niño. Le climat continue donc de se réchauffer et les conditions météorologiques ont désormais déjà une incidence croissante sur l'économie. Dans les Caraïbes, par exemple, la saison des ouragans a coûté 2015 milliards de dollars, du jamais vu. Et les ouragans ont été particulièrement dévastateurs, par exemple sur l'île de la Dominique, dont les produits brut a chuté de 200%, ce qui représente deux années perdues en termes économiques. À l'échelle du globe aussi, les dégâts causés par les catastrophes ont battu des records, la facture totale dépassant 300 milliards de dollars.
Retour sur l'actualité, la ville de Medellín en Colombie s'apprête à clôturer la 6e session annuelle plénière de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES. Pour en savoir plus sur les enjeux de la biodiversité, Florence Westgaard a joint la secrétaire exécutive de cet organe, Anne Larigauderie.
La biodiversité, c'est le monde vivant dans toute sa diversité, donc que ce soit le monde animal, le monde végétal, les champignons, les bactéries. En fait, la biodiversité a de nombreuses valeurs. La biodiversité sous-tend donc un ensemble de production de services et de biens matériels, tels que par exemple la production de nourriture ou bien la production de produits pharmaceutiques, différents services comme par exemple le contrôle de la qualité de l'eau. On sait que certains assemblages d'espèces permettent de filtrer certains polluants, ou la qualité de l'air, ou le contrôle même du changement climatique. Donc la biodiversité a non seulement une valeur intrinsèque et immatérielle, mais également fournit un ensemble de services qui contribuent au bien-être humain.
D'où le lien entre biodiversité, services écosystémiques et les êtres humains, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Il y a vraiment ce lien qui est très profond entre, d'une part, le monde vivant et le lien avec le bien-être, les services, et puis à la fin, les êtres humains et le bien-être humain.
Et quel est le lien entre biodiversité et changement climatique ?
Il y a un lien qui est très important entre la biodiversité et le changement climatique qui va en fait dans les deux directions. C'est-à-dire que d'une part, c'est un fait que le changement climatique a un impact sur la biodiversité, qu'on commence d'ailleurs à être en mesure de pouvoir documenter. Par exemple, on commence à observer que certaines espèces, à la fois animales et végétales, se déplacent vers le nord, dans l'hémisphère nord, et puis quand on est en altitude, en zone de montagne, en altitude plus élevée, pour pouvoir retrouver en quelque sorte le climat auquel elles sont adaptées. Pour citer un cas concret, on peut penser en France aux vendanges qui sont faites de plus en plus tôt, la teneur en alcool du raisin et la qualité des vins qui est affectée. Dans d'autres régions du monde, les récifs coralliens par exemple, et l'impact important de l'augmentation de la température liée au changement climatique sur ces récifs coralliens. Mais à l'inverse, la biodiversité a également un impact sur le changement climatique et peut fournir une solution au problème du changement climatique. Ceci est lié à la capacité des plantes, de par la photosynthèse, à fixer le carbone dans l'atmosphère et à donc à séquestrer, on dit, c'est-à-dire à absorber du carbone qui est dans l'atmosphère et qui crée le problème du réchauffement. Donc les plantes, de par leurs caractéristiques, la photosynthèse, peuvent absorber ce carbone et le maintenir pendant des dizaines, voire quelquefois des centaines d'années au sein de leurs tissus et puis ensuite dans leurs racines et dans le sol, et donc le maintenir à l'écart du cycle du carbone et à l'écart du changement climatique. Donc, quand on coupe des forêts, on contribue au changement climatique, et à l'inverse, quand on laisse les forêts se régénérer ou quand on restaure des écosystèmes qui étaient détériorés, on va permettre à davantage de végétation de croître et on va permettre à davantage de carbone d'être séquestré au sein des tissus végétaux, d'être sorti de l'atmosphère et du problème du changement climatique.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.